Bonjour à vous tous, auditeurs de Radio B sur 90 FM pour une nouvelle série des Chroniques du passé. Et bonjour Martine.
Bonjour Rémi. Avant de commencer notre chronique, annonçons une bonne nouvelle. Le nouveau site internet des Chroniques de Bresse est ouvert. En tapant, en lettres minuscules toutes attachées, chroniquesdebresse.fr, vous, auditeurs, vous pouvez retrouver nos chroniques radiophoniques et les articles illustrés qui les complètent. Pour les podcasts, retrouvez-nous aussi sur le site de Radio B.
Saluons le travail effectué par le service multimédia de l'AGLCA, désormais installé à la Maison de la Culture et de la Citoyenneté. Un merci plus particulier à Yannick, qui a réussi une belle création.
Nous avons ainsi un outil supplémentaire pour communiquer avec nos auditeurs et les lecteurs des anciennes revues. Revenons à Radio B. Pour ce mois de septembre, que proposons-nous ?
La fête de Saint-Nicolas.
Saint-Nicolas ? Rémi, nous sommes en septembre.
Nous allons évoquer Saint-Nicolas de Tolentin, un religieux exemplaire, connu et introduit en Bresse par Marguerite d'Autriche. Il a suscité une ferveur populaire dont il est difficile d'en imaginer l'ampleur. Nous venons d'entendre un extrait des Carnets secrets, un CD édité par le monastère de Brou pour des musiques du temps de Marguerite d'Autriche. Elle a choisi Saint-Nicolas de Tolentin. Qui est-il ?
Il naît en Italie, près d'Ancône, en 1246. Pour le concevoir, sa mère a fait un pèlerinage à Saint-Nicolas de Myre, près de Bari. Ayant été exaucée, elle prénomme son enfant Nicolas. Tout jeune, ce fils entend la prédiction d'un moine de Saint-Augustin et il se destine à cette vie de religieux. Il mène alors une vie très pieuse, fonde plusieurs couvents et passe les 30 dernières années de sa vie à prêcher l'évangile dans la ville de Tolentino, au sud d'Ancône. Il décède le 10 septembre 1305. Il est canonisé par le pape Eugène IV en 1446.
Marguerite d'Autriche et Saint-Nicolas. Pourquoi Marguerite d'Autriche choisit-elle d'honorer ce saint ?
Son époux, Philibert le Beau, décède le 10 septembre 1504, le jour de la fête de Saint-Nicolas de Tolentin. Elle choisit donc de placer son époux sous la protection de ce saint italien qu'elle vénérait, dit-on. Il a été canonisé depuis peu et Marguerite place son église de Brou sous sa protection. Comme il était un augustinien, elle confie le monastère à des augustins de Lombardie. Un service funèbre pour Philibert est célébré chaque 10 septembre.
Cela explique la présence de Saint-Nicolas de Tolentin à Brou. Mais Brou n'est plus l'église paroissiale de Bourg. Comment les deux églises sont-elles liées et associées au peuple ?
Cela se fait un siècle plus tard. Depuis 1347-1348, l'Europe est ravagée par des épidémies de peste. La population est totalement démunie face à ce fléau mortel. Le clergé célèbre des messes, demande l'intercession du Christ, de Notre-Dame et de Saint-Roch par des processions. Rien n'arrête la mort.
À l'automne 1628, la peste sévit à Lyon. Elle peut arriver jusqu'à Bourg. Les autorités s'activent.
Elles instaurent déjà un conseil de santé pour faire appliquer des mesures d'hygiène publique et doter la ville de moyens médicaux, selon les connaissances de l'époque. Des miracles se seraient produits à l'occasion de la Saint-Nicolas de Brou. Elles font appel à ce saint par l'intermédiaire d'un vœu solennel devant l'hôtel de Brou le 28 janvier 1629. Si la peste épargne la ville, le 10 septembre sera célébré à perpétuité. La journée sera chômée, deux cierges de cire seront offerts et, ce jour-là, une grande procession rassemblant le clergé et le peuple se rendra de l'église Notre-Dame de Bourg à l'église de Brou, où une messe solennelle sera célébrée.
Après cette journée solennelle, la peste reste éloignée de Bourg. La ville est fort satisfaite et elle offre le tableau votif à Saint-Nicolas, toujours exposé sous le jubé de Brou. La ville est épargnée ensuite pendant plusieurs décennies. Il est vrai qu'elle s'en garde au plus haut point. 50 ans plus tard, la peste sévit encore dans les alentours et frappe la ville au cours des années 1674-1675.
Cet épisode est vécu comme un châtiment de Dieu à cause de la mauvaise conduite des habitants. Et les prostituées sont particulièrement vilipendées. La ville expie ses péchés par une grande procession et prend des mesures d'hygiène publique très strictes.
Tout rentre dans l'ordre, comme ailleurs.
Non, en effet. Une dernière épidémie de peste frappe Marseille et sa région en 1720. Mais le pouvoir royal prend les mesures nécessaires pour la circonscrire. On ne parlera plus de peste en France.
Martine, revenons à Bourg et à Brou. Saint-Nicolas est-il toujours fêté ?
Oui, les archives sont peu nombreuses. Mais il semble que Saint-Nicolas de Tolentin soit fêté chaque année, même après le remplacement des moines augustins italiens par des moines augustins français. Au début du XVIIIe siècle, le conseil de la ville s'offre un repas, comme le prouvent des factures mentionnant, je cite, « repas habituel le jour de Saint-Nicolas ».
Les factures évoluent et peu après, elles indiquent, je cite, « frais des réjouissances et du repas le jour de Saint-Nicolas ». Que faut-il en déduire ?
Faut toujours être prudent dans les suppositions. Récapitulons. Pour la Saint-Nicolas, une procession se rend de Notre-Dame à Brou pour une messe solennelle au cours de la matinée. Les élites civiles, et sans doute religieuses, se rassemblent à midi pour un repas lui-même solennel. La journée est chômée. Que peut faire le peuple l'après-midi, sinon se rassembler et se réjouir ? Que sont les réjouissances payées par la ville ? Difficile à dire.
Les petits pains de Saint-Nicolas sont aussi vendus ce jour-là.
Ces petits pains sont liés à l'histoire du saint. Ils sont proposés à l'entrée de l'église pour être bénis pendant l'office. À l'origine, ils préservaient de la peste.
Au XVIIIe siècle et après, ils n'ont plus la même fonction.
Ils sont un rite religieux local. Ils participent à la fête et au souvenir des temps difficiles.
La fête de la Saint-Nicolas survit à la Révolution ?
La fête est trop ancrée dans la tradition de la ville pour disparaître. Elle reprend sous l'Empire. Elle est importante pour la cohésion de la ville. On participe aux offices religieux, messes, processions et vêpres, et on se retrouve ensuite pour le bal populaire, tel que l'a caricaturé Gustave Doré.
Mais il l'a intitulé la Vogue de Brou.
Le dictionnaire historique de la langue française dit que le mot « vogue » est propre à la région lyonnaise, depuis le XVIe siècle, et qu'il désigne une fête patronale. Et c'est bien le cas pour la Saint-Nicolas de Brou.
Pourtant, Saint-Nicolas n'est pas le saint patron de la ville.
Non, c'est bien la Vierge Marie de l'église Notre-Dame. Elle est fêtée par une procession, des offices et des réjouissances, le second dimanche après Pâques. La Vogue de Brou s'est imposée, mais les deux fêtes cohabitent, l'une au printemps, l'autre à la fin de l'été. Plus tard, d'autres fêtes de quartier naîtront.
Mais la Saint-Nicolas garde sa primauté. Elle évolue avec le temps.
Elle s'est inscrite dans l'histoire de la ville. On y vient de tous les alentours, en famille. Elle prend de l'ampleur avec l'arrivée, puis le développement du chemin de fer. Les chroniqueurs indiquent que de 1000 à 1200 personnes arrivent des lignes de Lyon, La Cluse ou Chalon. La Saint-Nicolas est vraiment un événement. C'est la fête patronale de la ville, le rendez-vous à ne pas manquer.
Elle prend de l'ampleur, s'étale de la rue des Tanneries à l'église de Brou, sur plus de 700 mètres de longueur.
Les cabanes des forains, des saltimbanques, de curiosités diverses sont de plus en plus nombreuses. Guignol est souvent présent. Après les lanternes magiques, ce sont des projections de photographies. Le cinématographe s'installe pour cette fête à partir de 1906. à Saint-Nicolas se déroule le dimanche et le lundi, puis le dimanche suivant, avec toujours des bals populaires où se retrouvent bourgeois, paysans et ouvriers. La fête religieuse est séparée de la fête populaire et se déroule 8 jours plus tôt. Les fidèles font bénir les petits pains de Saint-Nicolas qu'ils ont achetés à l'entrée de l'église.
Les guerres n'interrompent pas cette fête ?
Elles suspendent les réjouissances populaires qui reprennent ensuite. Durant l'entre-deux-guerres, une course cycliste est ajoutée et la fête attire toujours autant la foule.
Et après la Seconde Guerre ?
La Saint-Nicolas reprend dès 1946 avec bals populaires, courses cyclistes et concours de boules. Ce n'est qu'en 1948 qu'elle retrouve toute sa vigueur lorsqu'est passé le temps des restrictions. On délaisse les petits pains et le public préfère désormais les tartes et les brioches achetées chez le boulanger.
1948 voit aussi une innovation, la matinée enfantine du jeudi.
Le jeudi, c'est le jour où les enfants ne vont pas à l'école. Les organisateurs leur offrent un spectacle avec goûter et verre de limonade.
Mais la fête foraine est de plus en plus bruyante et perturbe les malades de l'Hôtel Dieu jusqu'à une heure avancée de la nuit.
Il y a aussi l'automobile qui prend de plus en plus d'importance et de place. La course cycliste est supprimée en 1954. La fête est gênante. On envisage le déplacement de la fête foraine sur le champ de foire. Comme la Saint-Nicolas est la fête patronale, le comité souhaite que toute la ville se mobilise pour cette fête. Des animations sont programmées dans tous les quartiers.
La nouvelle Saint-Nicolas est-elle une réussite ?
À l'heure du bilan, les organisateurs veulent le croire. Mais les années suivantes, il ne subsiste que la fête foraine sur le champ de foire. La commémoration de Marguerite à Philibert et Saint-Nicolas est écartée. La matinée enfantine est maintenue le jeudi. Et les forains offrent des tours de manège aux orphelins.
Peut-on dire que la Saint-Nicolas a vécu ?
En quelque sorte, oui. En quittant son quartier, elle a perdu son âme. En outre, la société a évolué, tout comme les aspirations du public. C'est ainsi.
Nous terminons sur ce constat. Nous nous retrouverons dans un mois pour une nouvelle chronique sur Radio B 90 FM. Au revoir.
Et rappel avec un détour sur le site des Chroniques de Bresse. Mais encore un message. Rémi, voici un an qu'avec Pauline, nous avons débuté ces chroniques. Pauline, nous vous remercions pour la tenue des enregistrements, de gommer nos bafouillages et placer pile poil les temps de musique. Au revoir à tous.